des milieux ruraux qui se repeuplent et connaissent un regain d'intérêt, surtout depuis l'épidémie de Covid, et d'autres campagnes qui se dépeuplent. Les ruralités sont devenues très plurielles et il n'y a pas grand-chose en commun entre les ruralités qui perdent des habitants et celles qui en gagnent, entre celles qui ont une attractivité industrielle ou activité de pointe et celles qui n'en ont pas. Et pourtant, certaines idées reçues sur le rural sont encore très vivaces, avec toujours en toile de fond la comparaison avec la ville. La ruralité reste chargée de clichés et de projections. Alors aujourd'hui, dans la lorgnette, nous partons à la rencontre de jeunes qui organisent des fêtes itinérantes dans des villages de moins de 1000 habitants. C'est l'initiative Villageois qui vise à ramener des services de proximité et du lien social dans les territoires ruraux. Pour cela, elle organise des fêtes de village où s'installent dans la commune, le temps d'un après-midi ou d'une soirée, des services publics, des associations locales et départementales, des commerces et des animations. L'équipe de Villageois vient cette année pour la première fois dans le département du Loir-et-Cher, sur le territoire du pays de la vallée du Cher et du Romorantinet, du 15 septembre au 30 octobre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette lorgnette délocalisée. On est sur la commune de Fins ce soir avec le soleil rasant. On est à côté de la salle des fêtes de la commune avec Julia et Étienne de Villageois donc. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous accueillir avec vous sur cet événement qu'on va découvrir tout au long de la soirée. Vous allez être un peu le fil rouge de l'émission, mais après on ira à la rencontre des habitants, des personnes qui tiennent les stands ce soir ici à Fins. Alors, Villageois, en trois mots, donc pas un simple Villageois, la ville à joie. Vous faites partie de l'équipe salariée ?
Oui, tout à fait. On fait tous les deux partie de l'équipe salariée. Donc en pleine saison, on est environ 35, parce qu'on est 6 équipes à tourner au national, à couvrir 19 départements, pour faire des événements qui ont le même format que celui que vous allez découvrir ici ce soir.
Alors les Villageois, en quelques mots, comment on peut présenter l'expérience Villageois ?
En seulement quelques mots.
De manière générale pour commencer.
De manière générale. Donc Villageois, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise mais qui est donc à but non lucratif. Et le but concret de Villageois, c'est d'organiser des événements dans les communes de moins de 1000 habitants, avec pour but d'y convier des services publics et parapublics, des associations qui ont des missions de service public pour lutter contre le non-recours aux droits. Donc pour que les personnes, notamment certaines, si elles sont en situation d'isolement social, elles puissent bénéficier des services sans avoir à se déplacer, que ce soit les services, les associations, mais aussi les commerçants qui viennent réinvestir en fait des villages. Et ce qui est intéressant avec Villageois, c'est qu'on va couvrir plein de typologies de villages différentes et qu'il y en a qui sont hyper dynamiques. Il y a des villages qui ont une vie associative hyper dense. On va parfois même trouver des services publics, mais c'est vraiment pas la majorité. Et il y en a d'autres où on se rend compte que c'est des villages qui ont un peu été, abandonnés, où il se passe plus grand-chose. Et donc l'idée, c'est de venir faire un événement pour créer une dynamique après locale, essayer d'impulser en fait qu'il se passe des choses en fait dans ces territoires ruraux qui représentent une grosse partie du territoire français. Qu'on les oublie pas.
N'hésitez pas à aller voir un petit coup à leur côté. Et voilà, plein d'animation. Donc, on vous invite à faire le tour des stands et à profiter de cet événement. Merci.
Alors, comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Vantan Leduc.
Et tu tiens un stand ce soir à Villageois. Est-ce que tu peux nous expliquer lequel ?
Alors, on est audioprothésiste. On a un stand Sonance Audition. Donc, on est installé à Contres, Selles-sur-Cher, Onzain et Romorantin. Et donc, on fait de la sensibilisation, des tests auditifs. Et voilà, on renseigne un peu sur les risques liés au bruit.
Et donc, il y a ce petit pylône avec un casque dessus.
où vous faites des tests auditifs, c'est ça?
Oui, donc là on fait des tests auditifs, donc vraiment c'est un dépistage, donc c'est pas à but médical, sauf que ce soir c'est très bruyant, donc c'est pas toujours très fiable, donc on donne rendez-vous en cabinet pour préciser les tests.
Et est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement?
Oui, donc là c'est la première fois, donc on a fait Meyer, on en a fait une autre ville, et donc là c'est le troisième villageois qu'on fait ce mois-ci.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'entreprise et structure, d'être présent sur ce genre d'événement?
Ce qui nous apporte, c'est vraiment nous montrer, d'une part. Après, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur le secteur. Voilà, c'est aussi pour sensibiliser et toujours proposer un service de proximité.
Et qu'est-ce que vous disent les personnes qui viennent vous voir?
Elles recherchent soit des informations, soit pour elles ou soit pour une personne de l'entourage. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un certain lien avec la personne qui vient prendre des infos. Bah, ce sont des personnes un peu isolées, qui sont loin en fait des commodités, que ce soit des services ou des soins. Et nous, ça nous tient à cœur d'aller au plus près des gens qui habitent dans ces communes rurales pour éviter qu'elles prennent la voiture. C'est plutôt nous qui venons à eux. Non, parce que c'est vrai que la réalité, c'est pas facile à définir, alors qu'on y est tous les jours.
Toi-même, tu vis dans un village?
Non, moi j'habite à Saint-Gervais. Avant, j'habitais dans un village en Touraine. Voilà, donc je sais ce que c'est être loin et prendre la voiture pour aller à la boulangerie ou les rendez-vous médicaux, etc.
La ruralité, je lisais en préparant l'émission, c'est 33% selon l'INSEE de la population française. Donc oui, c'est une grosse partie de la population qui est souvent mal mise en récit dans les médias. Donc c'est quelque chose, on reviendra là-dessus plus tard. Donc vous allez en tournée itinérante dans certains départements de France. Le Loir-et-Cher, c'était une première?
Ouais, c'est la première fois qu'on vient dans le Loir-et-Cher. Nous, avant de venir ici, on était dans l'Eure et l'Orne avant encore. Donc voilà, la plupart des tournées sont itinérantes, c'est pas toujours le cas. Certaines sont pérennes et restent, je pense à celles dans Côte d'Or. Mais oui, on est 6 équipes du coup à parcourir le territoire.
Et quelle est la période? Est-ce que vous le faites à l'année ou il y a vraiment la période estivale qui est printanière?
La plupart, c'est quand même la période estivale.
Oui.
On a une tournée pérenne, je crois une deuxième aussi qui arrive. C'est dans la Nièvre, qui est un peu en fait le foyer de villageois, en fait tout est parti de la Nièvre à la base. Et prochainement, du coup, cet hiver, il y aura aussi des événements dans le Vaucluse, voilà, autour d'Avignon. Donc c'est les deux seuls qui continuent après le mois d'octobre. Voilà. Donc c'est plutôt au beau jour, hein, majoritairement de mai à octobre.
Comme tu l'as dit, Julia, y a la ruralité, c'est pas un seul et même bloc, il y a plusieurs ruralités. Comment vous la définiriez Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé en Loir-et-Cher, mais le peu que vous en avez vu de la commune de Fins, comment vous la décriveriez, cette ruralité-là?
Alors là encore, ça va être difficile de faire une... J'ai pas envie de tomber dans une définition trop généraliste, parce que ça... On a été dans des communes où il se passait beaucoup de choses, où elles étaient très dynamiques. En sachant que ça va aussi dépendre d'à quel point les communes qui sont proches de Romorantin par exemple vont plus facilement avoir un tissu associatif dense, plus facilement avoir des services publics à proximité, et d'autres qui vont être un peu plus enclavés dans le territoire. En fait, plus on va s'éloigner un peu des pôles plus urbanisés, et plus on va tomber dans quelque chose de plus, comment dire, dépourvu en termes de services publics et parfois d'associations, malheureusement. Mais globalement, assez dense. Nous, on est très contents de l'accueil, que ce soit l'accueil des intervenants. On trouve que les services publics et globalement les intervenants sont très, 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 très réceptifs à la démarche. C'est rare. Là, sur la tournée du Loir-et-Cher, on a 13 intervenants. Si on en a 15 sur nos événements, on est dans une fourchette basse. Enfin, pour vous dire, ça répond globalement très bien. On est plus sur une vingtaine. Là, aujourd'hui, il y a 18 intervenants différents. Et c'est une fourchette assez haute, donc on est très content. Donc on sent que globalement, il y a cette envie d'aller vers pour les structures dans le Loir-et-Cher, donc c'est super. Ça répond aussi bien au niveau des habitants. On a des bonnes fréquentations sur les événements. alors que c'est la première fois qu'on vient, donc on ne bénéficie pas encore d'une notoriété. Voilà, on n'est pas encore très connu, comme c'est que la première fois, mais globalement, on sent que ça répond bien, donc c'est chouette.
Et comment se fait la prise de contact avec le territoire en question ? Est-ce que c'est les élus locaux qui viennent vers vous ou est-ce que c'est vous qui proposez Villageois ?
C'est nous qui rentrons en contact avec les mairies. Donc parfois, on nous partage les contacts pour des mairies qui seraient plus susceptibles d'accueillir un événement. Mais c'est nous qui contactons les mairies, qui leur proposons l'événement. Voilà, on propose une solution clé en main, en fait, où on s'occupe plus ou moins de tout, dans le sens où on demande juste d'avoir accès à une salle, des tables, des chaises, un accès à l'électricité. Et puis c'est parti. On contacte les intervenants, les services publics, les associations, les commerçants. Voilà, tout se met en place.
Oui, c'est ça, c'est très clé en main. Et Villageois, on fonctionne toujours donc par... on parle de tournée, parce que ça veut dire qu'on va être en lien avec un territoire. Donc là, c'est le pays de la Vallée du Cher et du Romorantiné, qui est la fusion de deux communautés de communes, celle du Romorantiné du Monestois et celle du Val de Cher-Controis. Donc dans ces deux communautés de communes, il y a plein de communes qui font moins de 1000 habitants. Et donc nous, lorsqu'on valide avec un territoire, donc le pays qui est commanditaire, qu'on va venir, on diffuse ce qui s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est l'équivalent d'un petit dossier de candidature. Il est envoyé par souci d'équité à toutes les communes qui font moins de 1000 habitants, donc elles le reçoivent toutes. Et ensuite, elles nous le renvoient pour manifester leur volonté d'accueillir un événement dans la commune. Et après, comme a expliqué Étienne, on prend contact avec elles pour après la partie organisation.
Alors, comment vous appelez-vous ?
Monsieur Rudo Patrice.
Et est-ce que vous venez du village ?
Je suis du Contron-en-Sologne, oui. Parce que je suis élu de la commune du Contron-en-Sologne, c'est pour ça que je suis au courant de Villageois.
Et alors, est-ce que vous venez d'arriver ou vous avez déjà fait un petit tour ?
J'ai rempli mon carton déjà.
Pour
J'ai
le bingo.
J'ai fait tous les stands. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans les stands ?
Eh bien, tout en général, surtout la violence contre les femmes, etc. C'était un stand très particulier.
Le CIDFF.
Et je pense que ces gens-là, ils ont énormément de travail à faire. Parce que l'égalité, elle est loin encore. Hein, en souhaitant que ça s'améliore.
Et en tant qu'élu, est-ce que vous aviez déjà été dans des événements comme ça, villageois, ou des événements qui ressembleraient ?
Non, c'est la première fois que je participe à une soirée comme ça, avec des stands où on peut poser le nombre de questions qu'on a envie de poser. Et on a les réponses, c'est déjà très bien.
Vous qui êtes élu au Controis-en-Sologne, quels sont un peu les grands enjeux autour de ce qu'on entend parler dans les médias sur les campagnes, le déclin des services publics, des professionnels de santé, enfin voilà, très concrètement au Controis.
Sur le Controis-en-Sologne, des professionnels de santé n'en manquent beaucoup. Malheureusement, c'est la désertification médicale, et c'est assez terrible. On vit une drôle de période. Sur le Controis-en-Sologne, on manque de médecins généralistes.
Est-ce qu'il y en a encore ?
Je crois qu'il en reste deux, il me semble. Deux. À côté de ça, ça manque un petit peu de tout en général, de dentistes, de kinés, d'infirmiers, etc. On est obligé d'aller se faire soigner sur les villages d'à côté où il y a ce qu'il faut. Malheureusement, alors je ne sais pas pourquoi, le Controis-en-Sologne fait peur, peut-être, je ne sais pas. J'espère que non. Mais bon, je pense qu'on devrait remédier, on travaille dessus, donc on devrait remédier à ça dans peu de temps.
Et comment vous travaillez dessus ?
On travaille en groupe, on fait des commissions au niveau du conseil municipal. Il y a des commissions qui sont organisées. Hein. Alors moi, cette commission-là, j'en fais pas partie, mais ils travaillent sur le fait de la désertification et au niveau de tout ce qui est médical. Hein, on a les locaux. Il n'y a plus qu'à trouver les médecins. Voilà.
Et en termes de commerce, au Controis-en-Sologne, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Je ne connais pas bien la commune.
Il y a toutes sortes de commerces. Hein. Nous avons des restaurants, nous avons des épiceries, des charcuteries, boucheries, bars. Il y a tout. Banques. Qu'est-ce que je veux dire ? Des garages, tout ce qu'il faut.
Oui, c'est un village qui,
c'est
quand
un
même...
village, voilà, qui se développe. Et je dirais que le Controis-en-Sologne, il y a quand même, si on va sur Contre même, il y a beaucoup d'entreprises. Et je crois que sur le Controis-en-Sologne, il n'y a pas loin de 4500 emplois pour 7000 habitants. Donc c'est quand même pas mal. Disons que dans la moyenne, on est meilleur que Blois. Voilà.
Et dernière question, vous qui vivez à la campagne, même si c'est une campagne près de la ville, comment vous définiriez ? Est-ce que vous êtes un campagnard, un périurbain ? Enfin, quel mot vous plaît pour vous définir ?
Moi, personnellement, comme nomme campagnard, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai toujours vécu à la campagne. Donc, je suis un campagnard impur. Après, Contres, c'est un petit village de 3000 habitants. Donc, c'est une petite ville, on peut dire des villageois peut-être. Alors, l'union des 5 villages fait qu'on est un village important. On est 7000. Donc, aujourd'hui, on peut dire que je suis un villageois tout en étant campagnard. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Une question un peu plus personnelle, quel est votre rapport au village, vous, et à la campagne ? Est-ce qu'il a évolué depuis que vous faites partie de villageois ?
Moi, à la base, je suis issu d'une famille d'agriculteurs dans la Nièvre. Donc, j'ai même habité assez longuement dans un tout petit village qui s'appelle Chassaigne, voilà, dans la Nièvre, où il y a 30 habitants. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle. Je me sens bien, en fait, en ruralité. Alors qu'en plus, à la base, je suis de région parisienne, donc rien à voir.
Le paradoxe.
Mais non, j'étais pas particulièrement décontenancé d'arriver dans des zones rurales, moins denses. Moi, ça me plaît, je sais que j'y vivrai, ça c'est sûr.
Alors, je suis moins familière du milieu rural, parce que j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, il y a pas mal de ruralité, mais moi j'étais dans quand même une petite ville, on va dire. Le projet m'a plu justement parce que je connais assez peu la ruralité et je me suis dit aujourd'hui c'est vrai qu'on parle beaucoup des problématiques, enfin des grands oubliés de la ruralité, etc. Et je me suis dit, mais en fait je connais pas du tout ce milieu là, donc envie d'aller le découvrir aussi. Sans jugement, sans poser de jugement, et franchement c'est une super découverte. Mais oui, effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques, où lorsqu'on habite en ville, tout nous est servi sur un plateau, en fait on ne s'en rend même pas compte, mais en fait on se rend compte que c'est pas du tout, il ne faut pas le prendre pour acquis, quoi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas de commerce à proximité, de pharmacie, services de santé. Services de santé, c'est vraiment la grosse problématique.
C'est dont les gens vous parlent.
C'est ce que les gens parlent le plus, qui nous font le plus remonter, toujours en termes de besoins, c'est les services de santé et de mobilité aussi. Parce qu'en fait, dans la ruralité, nous, on a la chance d'avoir le permis de conduire, d'avoir un véhicule, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, si on se retrouve à même plus pouvoir conduire du jour au lendemain, parce que, par exemple, on est trop âgé, il n'y a pas toujours de solution, il n'y a pas de bus qui passe, ou alors il y en a un par jour. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête quand on habite dans une agglomération.
Alors moi, c'est Nadine.
Est-ce que je peux te demander ton prénom à toi ?
Loane.
Donc Nadine, vous êtes habitante de Fin.
Oui, c'est bien ça.
Et comment vous avez eu connaissance qu'il y avait cet événement ?
Par rapport aux flyers qu'on a eu dans les boîtes aux lettres.
Okay. Et qu'est-ce que vous êtes venue chercher ?
Eh bien, beaucoup de renseignements et présenté aussi à mon petit-fils, qui a été intéressé sur les déchets.
Est-ce qu'il y a des associations que vous ne connaissiez pas ?
Quelques-unes quand même que je ne connaissais pas. Donc, c'est ça à apprendre, quoi. Voilà.
Vous habitez à Fin depuis longtemps ?
23 ans. Non, 25. 25, oui, les années tournent.
Alors, on parlait avec l'équipe de Villageois la ruralité, enfin, il y a plein de campagnes différentes, de types de campagnes. Si vous deviez décrire un peu la commune de Fin ?
Eh bien, la commune de Fin, c'est une belle petite commune. Dommage qu'il manque quelques animations. Des animations un peu plus pas joyeuses, mais festives, des animations aussi bien pour les enfants aussi, qu'il faut penser aux enfants. Donc il y a quand même plus d'habitants qu'en 2000, quand je suis arrivée, avec beaucoup plus d'enfants aussi. Donc c'est ce qui est bien aussi, quoi, c'est pour ça qu'il faudrait beaucoup plus de choses aussi pour les enfants.
Est-ce que le mot de campagne et de campagnard, ça vous parle ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Non, après pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez. Donc après, non, je ne peux pas vous en dire plus.
Et à Fin, c'est quoi ton endroit préféré dans ta commune ?
City.
C'est quoi le city ?
C'est le truc vert qui est là-bas,
Oui, c'est un petit stade où il peut jouer au foot et puis il y a les jeux. Mais bon, il commence à être un peu grand pour les jeux voilà, qu'il y a à l'extérieur. Quoi. Mmh. Ouais.
Okay. Bah, merci beaucoup à tous les deux.
Il n'y a pas de souci.
Alors, bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Donc, vous représentez l'Union pour la culture populaire en Sologne. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ?
Alors, c'est une association qui est basée pour l'instant à La Marolles-en-Sologne, un petit village entre Yvoil-le-Marron, Villeny, enfin, pour situer un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ne connaissent pas les limites de la Sologne.
À côté de Nain-sur-Beuvron.
Voilà, à côté de Nain-sur-Beuvron. Donc, c'est une association qui a 44 ans et donc qui a une vocation d'éducation populaire et de culture. Voilà. Union parce que on va avoir des associations qui vont adhérer. Donc on a une quarantaine d'associations adhérentes. Donc on est derrière ça une union. Culturelle parce qu'on propose beaucoup de manifestations et d'activités culturelles. C'est notre vocation quelque part. Un festival de musique traditionnelle à Pierrefitte-sur-Saulne qui a lieu chaque année. Qui
est né.
Oui.
Musique Alliance Sologne.
Les Musiques Alliance Sologne, je ne l'ai pas dit.
Et danse.
Donc c'est un festival qui est né en 1986, hein, voilà, qui va investir le village de Pierrefitte pendant 2 jours, hein, et qui propose de la musique et de la danse.
Donc le fait que villageois viennent animer un village le soir comme ça, j'imagine que ça vous parle, vous, en tant qu'habitante, en tout cas, ou travaillant ou étant bénévole pour, dans une ruralité, pour amener de la vie.
Disons qu'il était important pour nous d'être présents sur cette manifestation et sur cette opération-là, dans la mesure où, en fait, le contrat en Sologne, on n'y intervient pas très souvent, on va dire. C'est, comme la Sologne est très, très vaste, on est venu à coup de présenter Berdine Berdogne, mais c'est vrai que c'était en 2012. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une présence très forte et on s'en aperçoit au travers des gens qu'on a déjà rencontrés tout à l'heure. Ils ne connaissent pas vraiment l'association. Donc c'est important pour nous de faire connaître l'association parce qu'on a un rayonnement vraiment sur toute la Sologne. C'est ce qu'on essaye de faire en définitive. Voilà. Et c'est notre raison un petit peu d'être ici, de se faire connaître au plus grand nombre. Voilà.
Et comment vous trouvez le tissu associatif en Sologne ? Est-ce qu'il est assez développé ? Enfin, voilà, comment se portent les associations en Sologne ?
Je pense que le tissu associatif en Sologne, il est très dense. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Et sur divers thèmes aussi, donc des associations, des chorales, des associations de villages pour animer, enfin permettre aux gens de se retrouver, mais aussi à plus grande échelle, comme par exemple Sologne Nature Environnement, qui est une association qui est très connue, mais qui va faire un travail incroyable sur l'environnement, justement, mais plein de choses en organisant des sorties, enfin voilà. Nous, on va avoir un rayonnement donc aussi sur la Sologne, sur plutôt au niveau culturel. Après, il y a des associations comme le Grasse, par exemple, qui sont aussi des associations importantes, qui sont basées à la mode Beuvron et qui font un travail aussi encore sur une autre thématique, sur le travail.
Et le patrimoine.
Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations et en fait, ce qui est important, c'est de faire plein de choses ensemble et de co-créer pour organiser et attirer le plus de monde possible sur le faire ensemble, quoi.
Donc, quand on entend dire que les campagnes déclinent et qu'il n'y a pas de vie dans les campagnes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Heureusement qu'il y a des associations pour faire vivre justement tous les petits villages de campagne. Hein. Mais malheureusement, on n'arrive pas à recruter des jeunes. Je pense que c'est un peu partout, c'est dommage. Alors, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour arriver à recruter des jeunes. Peut-être donner des manifestations peut-être plus attractives pour eux, je ne sais pas.
Il faut se mobiliser. Enfin, il y a eu une grosse journée de mobilisation au niveau de l'associatif la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Il faut laisser et donner le moyen aux associations d'exister. Et c'est hyper important, surtout dans le milieu rural, quoi.
Est-ce que vous habitez toutes dans un village ?
Non.
Non.
Moi, oui.
Moi, le petit village où justement la Marolles-en-Sologne où l'UCPS son siège, un petit village de même pas 400 habitants.
Et dans ce village-là, quelles sont un peu les grandes problématiques en termes de ruralité ?
Les grands problèmes, le problème, c'est que bon, bien maintenant, c'est une population qui est beaucoup plus jeune, il y a presque plus d'anciens, mais on ne voit plus les gens. Alors, pour nos associations, par exemple, même les associations du village, c'est vraiment les anciens qui restent, on n'arrive pas à ça, la problématique. On n'arrive pas à recruter. C'est une cité dortoir. C'est ça, nos petits villages. Dommage.
Est-ce que vous avez des outils pour mesurer l'impact à long terme de villageois ?
Oui, alors on a à chaque fois des études qualitatives qui sont menées, quantitatives aussi. Mais donc là, sur les événements, à chaque fois, on a plusieurs médiums pour un petit peu réaliser notre étude. Donc déjà, les intervenants, on va leur donner ce qu'on appelle une grille d'interaction. Et l'idée, ça va être qu'ils puissent notifier combien de personnes ils ont vues et surtout si les personnes ont pu débuter une démarche sur le stand. Donc nous, on essaie tant que faire se peut d'avoir des retours de chaque intervenant. Par exemple, là aujourd'hui, il y a un audio prothésiste. Il va nous dire à la fin de l'événement, j'ai tant de personnes qui se sont fait tester leur audition. Il y a certaines associations, le CIDFF par exemple, qui est un service public, mais qui prennent des rendez-vous. Et donc là aussi, on va leur demander combien de personnes ont pris rendez-vous. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir mesurer combien d'interactions se sont créées sur les événements villageois. Pour les commerçants aussi, on demande toujours le chiffre d'affaires pour savoir combien de revenus au niveau local les événements ont généré. Et donc on a une chargée d'études qui, elle, se charge après de restituer toutes ces données qu'on fait remonter du terrain. Et puis ensuite, on a aussi des habitants qui vont nous laisser leurs coordonnées et qui peuvent donc être amenés à être rappelés. Donc là, on ne va pas tarder à le faire pour les premiers événements qu'on a eu dans l'Orne au mois de mai. L'idée, c'est de rappeler en fait les habitants quelques mois plus tard pour leur demander est-ce qu'ils se rappellent de l'événement déjà ? Est-ce qu'ils ont pu faire une démarche suite à l'événement ? Donc tous ces médiums-là, on diffuse également un petit questionnaire à chaque fois à la fin des événements. Où on demande aux personnes, d'une part, leur retour en termes de service public, quel service public ils estiment
primordial.
Voilà, prioritaire, de quel service il y a beaucoup besoin. Donc en fait, on les liste, services administratifs, de mobilité, de santé. Et à chaque fois, ils répondent en disant, il y en a fortement besoin, un peu besoin, moyennement, etc. Et après ça, on le fait remonter aux EPCI. On leur demande aussi si lors de l'événement, ils ont pu découvrir un service, entamer une démarche. Enfin voilà, on essaie un petit peu de multiplier les moyens de mesurer, puisque l'idée de Villageois, donc, c'est d'avoir des événements qui viennent en fait, qui vont être assez ponctuels. Mais le but, c'est que ça crée une inscription, enfin, qu'il y ait une pérennisation qui soit faite d'une manière ou d'une autre, que les gens puissent prendre rendez-vous pour des démarches. Et puis, que ça serve en fait dans une logique de long terme pour les habitants qui viennent les bénéficiaires en fait des événements.
Et quels sont les retours ? Est-ce que vous avez eu un retour marquant à nous raconter d'un bénéficiaire sur Villageois ?
Moi, j'ai un souvenir assez marquant de lorsqu'on a fait notre première tournée dans l'Orne. C'était l'événement, je peux même vous dire, c'était le 21 juin, le jour de la fête de la musique, à la Ferté-Fresnel, je me rappelle le nom de la commune. Et il y a un habitant, qu'Étienne en plus était allé rencontrer, parce qu'on fait du porte-à-porte lorsqu'on démarre les événements et qu'il n'y a pas beaucoup de gens au début, on peut aller toquer chez les personnes pour leur dire « Ah, il y a un événement, est-ce que vous avez entendu parler ?» Et puis les personnes, souvent, on en a entendu parler, mais l'idée, c'est de les motiver à venir. Et il y avait un monsieur un peu esselé, qui était complètement désorienté, qui était très âgé et qui vraiment était en situation d'isolement social très très forte. Il était perdu et il s'est mis à pleurer et il était hyper touché qu'on vienne le chercher chez lui. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Et ce jour-là, il y avait par chance la DMR, donc il y a une structure d'aide à domicile qui font beaucoup d'aller vers et qui globalement, leur cible, c'est les personnes qui sont en situation d'isolement social. Et donc on a pu mettre en lien la DMR avec ce monsieur. Et donc là, on se dit oui, ben, en fait, c'est utile. Et même s'il y avait eu que ce monsieur qui était venu à l'événement, l'événement aurait été réussi parce que ce monsieur pouvait bénéficier. Et, enfin, voilà. Mais c'est l'exemple le plus marquant que j'ai.
Oui, ça rejoint le baromètre des petits frères des pauvres qui est sorti récemment sur l'isolement social, la mort sociale qui toucherait, selon l'association, 750 000 personnes en 2025. Et toi, Étienne, sur les retours
Ce qui m'a le plus marqué, c'est une bonne question. À chaque événement, on sent quand même qu'on touche du monde. Qu'est-ce qui m'aurait le plus marqué ? Je sais pas, là, rien que pour aujourd'hui, moi, ce qui me marque, c'était entre intervenants, parce qu'on parle aussi beaucoup intervenants-habitants, mais même entre intervenants, il y a beaucoup de collaboration. Là, je pense au SMIOM, qui va faire, du coup, une action en avril avec l'association contre le harcèlement scolaire. Donc voilà, en fait,
ça permet
aussi des rencontres comme ça, ou des acteurs du territoire qui ne se connaissent pas forcément et qui disent « Ah, bah, vous existez, ah, on pourrait faire ça ensemble et tout. » Et donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà, dans l'interaction qui m'a marqué aujourd'hui.
Ah. Vous êtes le maire.
Voilà.
Monsieur, j'ai oublié le nom de famille.
Béné. Alors c'est effectivement, je vois, il y a Maison France Service qui est là. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est très très important pour tous les administrés, parce qu'on est on est des villages où les administrés, on est une population vieillissante, donc qui se retrouve confronté avec des beaucoup de documents qui doivent renvoyer notamment sur Internet, qui n'ont pas forcément la connaissance. Le SMIOM pour tout ce qui est retraitement des déchets, ça c'est important pour expliquer et notamment expliquer aux enfants comment se passe le retraitement, parce que c'est par les enfants qu'on commence à le faire et les adultes suivent derrière, ça fédère un petit peu les enfants, ça oblige les parents à le faire. Dans toutes les associations, j'ai vu pas mal d'associations, notamment bah, du Controis, le cyclotourisme qui vient présenter, des associations que je ne connaissais pas non plus, avec les associations qui ont pour les problèmes visuels, ça c'est important aussi de montrer ce qui se passe. Les associations sur les troubles psychiques, c'est des choses qui sont très importantes. On a échangé, on a beaucoup échangé avec la personne de l'association et on a même échangé nos cartes, parce que c'est ce que je lui dis, on est toujours un petit peu défaillant dès qu'on a des questions sur ce sujet, et effectivement c'est intéressant d'avoir les ficelles où tirer, où aller téléphoner pour ces choses-là. Ouais.
Aujourd'hui, les commerçants, les services publics et parapublics, les associations locales et départementales, d'être venus à Fin. On remercie aussi la mairie.
Jennifer, Isabelle.
Et vous êtes avec un grand garçon qui s'appelle
Evan.
Vous habitez la commune?
Oui, moi j'habite Fin, je suis à 200 mètres.
Fougères-sur-Bièvre, juste à côté.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir?
Alors bah déjà, j'ai eu le prospectus dans le cahier de l'école. Et puis nous, on est habitants de la commune et on s'occupe en même temps du comité des fêtes.
Ah, d'accord. Ok.
Voilà, on a double casquette.
Ok. Et comment vous trouvez l'événement? Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas?
Alors oui, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas, des associations qu'on ne connaissait pas qui... je pense vont nous rendre service au quotidien et même, enfin peut-être pas au quotidien, mais si on a besoin, on saura où avoir des réponses. Et puis même pour les personnes de notre entourage.
Par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple?
Alors il y a une association là pour les, enfin, qui gère l'emploi des personnes, on va dire fantômes.
C'est Propulse, Propulse. Ça, c'est celle qu'on voit là.
C'est ça. Il y a France Service également qui peuvent servir aux personnes pour tout ce qui est administratif, et je pense que ça c'est plutôt bien parce que il y a plein de gens qui ne savent pas faire leurs papiers et du coup je pense que ça peut que les aider. Et puis bah, il y a l'association des aveugles où là ça nous met carrément en situation et du coup c'est pas si évident que ça.
Vous qui habitez en zone, comme on dit, périurbaine, campagne, etc., comment vous vous définiriez? Est-ce que vous êtes des campagnards? Est-ce que vous aimez ce mot ou vous en préféreriez un autre?
Je suis pas campagnarde, hein. Ah non.
Non, on est
entre les deux. On aime la campagne, mais en même temps, je pense que... Bon, moi, j'ai un métier qui me fait bouger, alors toi aussi, donc... Non, on est...
La campagne, c'est une maison, c'est la maison parmi les champs. Là, il y a beaucoup de maisons quand même, donc c'est pas la campagne. Pour moi, c'est pas la campagne.
On est polyvalente. On est, voilà. On est des femmes actives.
Et oui, est-ce que ce mot campagnard, vous trouvez qu'il est un peu, qu'il a une...
Péjoratif. Il est très péjoratif. C'est pas parce qu'on habite dans un petit village de 800-900 habitants qu'on connaît rien, qu'on sort pas, qu'on bouge pas. Au contraire, moi je trouve qu'en plus, on a la chance... Effectivement, on fait partie du Contre en Sologne, il y a Contre. Mais voilà, que ce soit Fin, Fougères ou Champs, c'est quand même des communes dynamiques. Comme Tonnet d'ailleurs à côté, ça bouge. Il se passe des choses.
Et pourquoi, à votre avis, on a cette image-là de la campagne vieillissante, où ça s'endort
C'est d'avant, des générations d'avant. Il y avait vraiment la ville et la campagne, mais là, on n'est plus dans cette situation-là.
Est-ce que vous allez rester au bingo?
Oui.
Ah oui, on a rempli notre case.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne?
Eh bien, il faut aller à chaque stand. Et après, ils nous entourent le numéro qu'on leur a donné. Et donc, il faut faire une ligne. Et dès qu'on a fait une ligne, on a gagné. Mais quoi, on verra.
On a rempli trois grilles et on continue quand même à aller au stand pour s'informer.
Mais je pense que là, on a fait le tour. C'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes.
Ouais. Ouais. Même les familles monoparentales. Il y avait vraiment les droits des femmes. C'est vraiment...
Ces difficultés structurelles dont tu parles, elles peuvent amener à un ressentiment rural. Il y a des études sociologiques là-dessus. Et l'opposition France des territoires aux France périphériques avec les grandes métropoles. Est-ce que ça vous le ressentez dans... Est-ce que les gens vous en parlent, voilà, de cette un peu opposition ville-campagne?
On nous parle souvent de Paris quand même. Ouais, les Parisiens. Oh, les Parisiens.
Ouais, moi, je le sens pas tant. Je sais pas, pas tant. Tu trouves qu'on oppose quand même souvent un peu à eux, ils ont accès à tout et nous on est un peu délaissés, on l'entend parfois.
Moi j'ai l'impression, oui, plus Paris quand même. Mais parce que, enfin, effectivement, Paris c'est très central, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées à Paris quand même. Mais après, nous, c'est vrai que globalement, l'équipe, il y a des personnes de Marseille, toi de région parisienne, de Bruxelles. Bon, lorsqu'on le dit, les gens sont globalement contents. Enfin, on n'a pas trop de critiques en soi. Non, ça va. Non, c'est vrai qu'on ne nous le dit pas tant. Voilà. En tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que dans l'opinion publique, oui, c'est une revendication qui est quand même très souvent remontée auprès des habitants, qu'ils ne sont pas assez représentés dans les débats politiques. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu sur le terrain.
L'année prochaine, ce sera les municipales. Est-ce que ça risque un peu de rabattre des cartes pour vous?
Oui.
Oui, parfaitement.
Oui. On ne peut pas trop pour l'instant dire dans quelle mesure, en fait, puisque Villageois existe depuis 5 ans. Enfin, les premiers événements ont eu lieu en 2021. Donc, on n'a jamais vécu de municipale encore, enfin, d'élection. Mais effectivement, nous, comme on travaille avec des territoires, donc c'est... Les projets sont votés en fait par un conseil communautaire. Effectivement, s'il y a des tournées d'une année à l'autre où l'on revient, par exemple l'Orne, c'était la troisième année qu'on a fait une tournée sur le territoire. Si l'année prochaine, tout change suite aux élections, on pourrait ne plus être... le projet villageois pourrait ne plus être voté, pourrait ne plus avoir de place dans les lignes de budget. On ne sait pas trop encore en fait. Mais effectivement, ça pourra changer des choses. On ne sait pas trop pour le moment. Enfin, je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Mais oui, effectivement, ça va tout de même changer des choses si jamais des élections et beaucoup de choses se renouvellent. Ça pourra changer des choses, oui.
Là, la soirée a commencé à 17h30. Donc, il y a une première partie avec les stands, les services publics, les commerçants et autres qui sont là pour présenter ce qu'ils font. Et la deuxième partie de la soirée, c'est de l'animation. Alors, qu'est-ce qui est prévu ce soir?
Exactement. Donc, les deux premières heures, c'est bien la partie stand. Et à partir de 19h30 ce soir, on va faire un quiz musical. Voilà, de style blind test.
Okay.
Donc en fait, on va passer des musiques, ça va des années 60 à de nos jours. En fait, on s'adapte plutôt à notre public. Et il va falloir retrouver là où les artistes. et le titre de la musique le plus rapidement possible. Voilà, il y a des petits lots à gagner en fait pour l'équipe qui gagne. Donc on finit toujours sur une petite touche un peu plus détente à la fin, un peu sympa. Voilà.
Eh ben merci beaucoup à tous les deux. Où est-ce que vous finissez la tournée en Loire-et-Cher jusqu'à la fin du mois? Où est-ce que vous passerez?
Encore deux événements. On sera le 23 octobre à Gy-en-Sologne et le 25 à Marœuil-sur-Cher. Voilà, qui sera le tout dernier événement. Donc n'hésitez pas à passer nous voir.
Et c'est toujours à peu près en fin d'après-midi aux mêmes horaires.
Oui, ce sera les mêmes horaires, hein, toujours à partir de 17h30 jusqu'à 21h.
Très bien.
C'est ça. Et ce sera à la salle des fêtes pour les deux événements. Et j'en profite juste pour dire un petit mot à nos partenaires et financeurs, sans qui ces événements-là dont on vous parle ne seraient pas possibles sans leur soutien. On a le Fonds social européen plus de l'Union européenne, la région Centre-Val de Loire, la G2R, la Mondiale, Malakoff Humanis, la Gircarco, Clésia, la CAF 41, le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantiné dont je parlais tout à l'heure. Et les deux communautés de communes qui mobilisent également leurs services pour venir sur les événements. Donc sans elles, ça aurait beaucoup moins de pertinence aussi.
Et bien merci à tous les deux. Et puis bon événement ce soir, bonne soirée.
Merci.
Merci.
Oui, bravo Michel Berger, c'est ça.
Un point pour eux. Et alors, il y a encore le titre à trouver.
Et oui, il y a encore le titre à trouver.